Alors finissons-en avec ces petits pieds tout ratatinés et horriblement mutilés que certaines très vieilles femmes en Chine continuent à avoir parce qu'elles ont subi ça lorsqu'elles étaient toutes petites. Mais posons-nous encore une dernière question avec Catherine Monfaron. Comment se faisait-il que les maris aimaient tant que ça les pieds bandés? Parce que sérieusement, j'ai quelques images sous les yeux de ces pieds terriblement déformés avec les doigts de pied repliés sous les pieds complètement atrophiés. Ce n'est pas vraiment très beau. Alors, quand Catherine Monfajon a posé cette question à ces vieilles dames, eh bien, elles ont éclaté de rire. Souvent un rire assez coquin du Catherine Monfajon. Et elles n'en diront jamais plus, estimant vraiment sans doute que leurs rires sont suffisamment éloquents. Alors, comment pourrions ignorer l'importance des pieds dans la sexualité chinoise? Si les Chinois appréciaient tant les pieds bandés, c'est parce qu'ils avaient pour eux une valeur érotique fondamentale. Tout et n'importe quoi a été écrit sur ce sujet. On a même prétendu que les pieds bandés musclaient le vagin, donnant aux hommes le sentiment de pénétrer de jeunes vierges. Ce qui est certain, c'est que le pied est un objet de désir particulièrement vénéré. Qu'une femme laisse un homme nonchalamment caresser son pied à la dérobée était le signal qu'une relation pouvait commencer entre eux. Mais si un homme les frôlait par accident, c'était bien pire que s'il avait touché les seins ou les fesses d'une femme. La manipulation des pieds était un prélude essentiel à l'acte sexuel, un excitant parfait, comme le décrit Howard Levy dans son livre « Les amants du lotus, histoire de l'étrange coutume érotique des pieds bandés en Chine ». Vous voyez que cette tradition a vraiment passionné de nombreuses personnes dans le monde occidental. Louis, continue donc Howard Levy dans son livre, Louis était enamouré par le bruissement de la démarche des femmes, tandis que le nez inhalait l'odeur de la plante parfumée des pieds. Pour atteindre l'extase, l'amant portait le pied de sa main à sa bouche, l'embrassait, le suçait, insérait le pied dans la bouche jusqu'à ce qu'il remplisse les deux joues en le mâchant vigoureusement. Les pieds étant si petits, c'était chose possible. L'amant pressait amoureusement le pied contre sa poitrine, son genou ou son sexe. Il était souvent volontaire pour laver les pieds de son adoré, aimant couper lui-même sans hésitation ses ongles de pied. Mangeait même des pépins de pastèque ou des amandes qu'il avait placées entre les orteils. Les hommes n'étaient apparemment pas du tout répugnés par l'odeur des pieds aux chairs putrescentes, évidemment, due à la déformation. Une senteur qui avait, semble-t-il, ses charmes pour certains. La fragrance était telle qu'il suffisait, lorsqu'quelqu'un s'évanouissait, qu'une femme se déchausse pour le réveiller. C'était, dit-on, bien plus efficace que n'importe quelle selle. Les femmes des classes plus aisées inondaient leurs pieds de parfum, bien sûr, plus pour en cultiver l'odeur particulière, semble-t-il, que pour en tuer la fragrance originelle. Tous ces charmes qui ont coûté tant de larmes aux jeunes chinoises sont devenus soudain désuets au début du XXe siècle. Et si des voix s'étaient élevées au cours des siècles précédents pour condamner cette coutume, il a fallu attendre jusqu'en 1911 pour que les propos des intellectuels chinois, conjugués à l'influence des étrangers qui colonisaient la région, notamment des missionnaires qui étaient outrés, et cela a enfin eu suffisamment de poids pour en provoquer l'interdiction. Mais, comme on vous l'a dit, ça n'a pas changé tout de suite. La pratique perdurera des années dans les régions les plus reculées. Nous avons ainsi retrouvé une femme qui a eu les pieds bandés en 1943. Ying habitait dans la région du Shandong, dans les montagnes entourant la ville de Jinan. Elle avait 10 ans à l'époque, 63 aujourd'hui. Et elle dit « Dans mon village, les paysans refusaient que les pieds des filles ne soient plus bandés. C'est ma mère qui m'obligeait à le faire. Et pourtant, elle souffrait elle-même beaucoup des pieds pour travailler. Quand elle a enveloppé les miens avec les tissus, je ne pouvais plus faire un pas. Petit à petit, j'ai réussi à remarcher jusqu'à ce que mes os se cassent. Je pleurais tous les soirs. Quelquefois, pour ne plus souffrir, je retirais la bande en cachette. Ma mère alors me battait, mais je m'en fichais. » C'est, dit-elle, la libération, donc 1949, qui a fini par la délivrer de ses bandages, c'est-à-dire la victoire de Mao Tse-tung. Et son mari, raconte-t-elle, qui était pourtant ravi d'épouser une femme aux petits pieds bandés, l'encouragea à arrêter. C'était comme ça. À la libération, tout le monde changeait d'avis et le fait que j'ai eu les pieds bandés est brusquement devenu source de gêne pour lui. Eh bien, vive le sacrifice fait par les femmes. Yin, qui a 78 ans aujourd'hui, n'a pas demandé l'avis de son époux pour arrêter un an après son mariage, à l'âge de 20 ans. Ce n'était plus la mode, et puis je me fichais d'être jolie ou pas, puisque j'avais déjà trouvé un mari, dit-elle. Pour elle comme pour les autres, ôter les bandages s'est avéré une épreuve de plus. C'est devenu encore plus douloureux parce que mes pieds avaient été habitués à être protégés par les tissus. Tout à coup, ils touchaient directement le sol et cela les blessait et j'avais souvent les pieds en sang. Notre grand-mère de 90 ans a attendu d'avoir 60 ans pour ôter tous ces bandages. Tout d'abord, je n'osais pas marcher puisque mes os étaient complètement cassés. J'avais tout le temps peur de tomber, je n'avais plus aucun équilibre. J'ai décidé d'enlever le tissu petit à petit, mètre par mètre. En fait, j'ai vraiment dû réapprendre à marcher. En cessant de bander leurs pieds, d'un seul coup, les années de torture n'avaient plus aucun sens. On leur avait appris à être fiers de leurs 6 petits pieds. Elles ont ensuite appris à en avoir honte et par conséquent honte d'elles-mêmes. Certaines ont été blâmées publiquement lors de campagnes d'éradication. D'autres qui avaient dû bander leurs pieds pour trouver un mari se voyaient désormais rejetées à cause de leurs petits pieds. Avec l'arrivée de Mao, elles sont devenues les victimes et le symbole d'une époque féodale et barbare, expression qu'elles annonceront toutes en cœur comme un discours bien rapaché. Mais on ne leur a jamais donné le droit à la parole. On leur a demandé d'oublier, alors que leur démarche même raconte chaque jour leur passé. Je vois bien que les jeunes me regardent comme si j'étais bizarre et que je suis devenue un objet de curiosité, dit une des grand-mères. Mais jamais personne ne m'a plainte ou consolée. C'est comme cela dans mon pays. Tout le monde a trop souffert. Alors face à l'absurdité d'avoir dû bander puis débander ses pieds, inutile objet de souffrance permanente, l'une d'entre elles nous demandera « à quoi bon s'interroger sur la question ?» Ça ne changera pas le fait que tous les os de mes orteils sont cassés, dit-elle, à moins que vous n'ayez une solution. Toutes, à part notre petite vieille élégance, nous diront leur soulagement de voir cette période des pieds bandés terminée à jamais. Chiu, l'aïeul de 90 ans, le dira joliment à notre traductrice de 20 ans. « Toi, tu peux vivre comme une fleur qui a le droit de s'épanouir. Tu as de la chance. Nous, dans l'ancienne société, notre jeunesse avait un goût amer. Je suis heureuse pour toi. » Elle serait sidérée d'apprendre que notre traductrice, en fait, a elle aussi bandé ses pieds. Mais pas de la même façon, insiste-t-elle. Simplement, ma mère et moi, on trouvait que j'avais des pieds trop larges. Alors pendant 6 mois, je les ai bandés pour réduire leur taille. J'ai un petit peu souffert, mais pas beaucoup. Et aujourd'hui, mes pieds sont beaucoup plus jolis. À sa connaissance, elle est la seule à l'avoir fait. Mais comme elle n'a jamais osé révéler qu'elle avait bandé ses pieds, il est possible que ses amis le lui aient caché aussi. Pour une jeune chinoise d'aujourd'hui, les petits pieds restent donc un critère de beauté. Comme quoi, on ne se débarrasse pas d'une coutume millénaire en moins d'un siècle et avec une révolution. Vartina, le groupe Vartina nous ramène en Europe. C'est un groupe de femmes finlandaises. Nous n'allons pas parler de la Finlande, mais nous allons parler de ce qui continue à nous annoncer des nouvelles terribles, c'est la Kosovo. La Kosovo, dont je viens de lire dans les journaux qu'il y a des milliers de réfugiés qui s'enfuient par la frontière nord de l'Albanie, avec les Serbes qui continuent à bombarder, avec des gens qui perdent tout et rien qui ne se passe au niveau international pour essayer de tenter d'enrayer ce qui s'annonce. Et ce sont les paroles du délégué au commissariat des réfugiés qui s'annonce comme la situation en Bosnie lors de la guerre en ex-Yougoslavie. Alors, il s'agit de parler le plus souvent possible de ce qui se passe en Kosovo, puisque au niveau des autorités et des dirigeants de cette planète, si peu de choses se passent et se disent. En l'occurrence, à l'Université populaire albanaise à Genève, eh bien, on laisse bien sûr beaucoup de place à la culture kosovare. C'est un lieu de rencontre, c'est un lieu de formation et d'information. D'abord pour la communauté albanaise. À Genève, il y a plus de 8000 membres de cette communauté qui vivent, mais bien sûr aussi pour tous ceux et toutes celles qui s'intéressent à la culture kosovare, à la communauté kosovare. Et l'Université populaire albanaise, dans ce sens-là, est un lieu incontournable. Il y a le café Pristina, vous pouvez aller manger tous les jours à midi. Vous y découvrirez toutes sortes de repas. Le jeudi, c'est le repas traditionnel kosovare. Et puis, il y a les divers cours, si ça vous intéresse, vous qui n'êtes pas kosovare, d'apprendre à parler albanais, bien vous le pouvez. Il y a des cours pour débutants, si vous avez des copains et copines kosovars, peut-être avez-vous envie de pouvoir dire quelques mots avec eux. Eh bien, c'est l'occasion, vous pouvez aller. Ce sont bien sûr des ressortissants kosovars qui donnent les cours, parce que chez nous, ils peuvent rarement pratiquer leur métier d'enseignant qu'ils pratiquaient chez eux. Donc, c'est cette occasion-là de pouvoir continuer à faire leur travail. L'Université populaire albanaise, c'est aussi un lieu de formation pour les jeunes kosovars qui, ne bénéficiant pas de permis leur permettant de travailler en Suisse ou d'être formé en Suisse. À l'heure actuelle, Genève autorise les jeunes requérants d'asile, même sans papier, à étudier, à être dans les classes, à l'école. Mais par contre, dès qu'ils sortent du monde de l'éducation scolaire stricte et qu'ils entrent en formation, comme par exemple à la recherche d'un apprentissage, ils doivent avoir un permis. Et comme ils ne l'ont pas, pour la plupart d'entre eux, se trouvant dans des situations les plus précaires, pour beaucoup de jeunes d'entre eux, ayant ce qu'on en appelle communément, ça n'a rien à voir, c'est une feuille blanche, mais ils appellent ça un permis de délai de départ. Ça veut bien dire son nom, c'est une feuille blanche, mais vraiment un vulgaire papier à l'entête de l'Office de la population, du contrôle de la population à Genève. Et on leur met un tampon, semaine après semaine, mois après mois, 3 mois par 3 mois ou 6 mois, à la tête du client, pour leur dire le temps qu'ils auront pour rester à Genève ou repartir dans leur pays. Alors, ces jeunes ne pouvant pas faire d'apprentissage trouvent à l'Université populaire albanaise la possibilité de faire une formation, par exemple, dans l'hôtellerie, au sein du café Pristina, ou bien une formation en électricité qui leur permette au moins de se former pour le jour où ils pourront rentrer chez eux. Mais les jeunes aussi aiment s'amuser, bien sûr, ça vous le savez bien. Et les soirées du samedi soir à l'Université populaire albanaise, à l'UPA comme on dit couramment, sont très vivantes. Mais les jeunes ont tendance à rentrer un petit peu en conflit avec les plus âgés. Et c'est un problème dans la coutume kosovare, parce qu'en fait, la coutume kosovare veut que quiconque est légèrement plus âgé que vous, vous lui devez obéissance. Il suffit que votre frère ait 3-4 ans de plus que vous, c'est à lui que vous devez obéir. Et bien évidemment, à vos oncles, votre père, bien évidemment, et bien sûr à vos grands-pères. Et alors, cette surveillance un petit peu entre jeunes et vieux pose quelques problèmes dans le contexte de l'exil ici à Genève. Et alors, il est devenu évident à l'UPA qu'il fallait une salle pour les jeunes, que c'était un manque très important parce que les locaux actuels de l'Université populaire albanaise sont très surpeuplés, ne serait-ce que par les aînés qui sont là tous les jours, entre autres, pour venir écouter et voir à 6h30 les nouvelles qui passent sur la radio albanaise, donc pas kosovare, mais albanaise, seul moyen d'information qu'ils ont sur leur pays. Alors, un nouveau local de 100 mètres carrés est en transformation grâce, bien sûr, à la participation hyperactive des jeunes kosovars. La transformation à l'équipement de ce futur local coûte plus de 30 000 francs. Il faut un salaire partiel pour un éducateur animateur qui doit être trouvé. Et bien tout ça, c'est beaucoup d'argent, beaucoup de moyens dont ne dispose pas l'Université populaire albanaise, même si jusque-là, elle a été soutenue vigoureusement par le Centre social protestant, Caritas, la ville et le canton de Genève, le groupe SIDA Genève. Mais quand on est ouvert 7 jours sur 7, il faut des moyens bien plus conséquents. Quand on veut trouver un espace pour les jeunes, il faut donc encore plus d'argent. Il se trouve qu'il y a des jeunes de France voisine et de Genève, qui ont voulu prendre une initiative qui a consisté à organiser un concert, il y a de cela une semaine, concert qu'ils destinaient en tant que musiciens à soutenir les jeunes kosovars, entre autres pour une meilleure compréhension entre ces jeunes-là et les jeunes d'ici. Eh bien, donc c'était le groupe Chitty Chitty Bang Bang et le groupe Métro, deux groupes genevois et au Savoyard. Il y avait aussi des groupes de rap albanais, enfin du kosovar. C'était le groupe TNGK, si je me souviens bien, du nom, qui est donc un sigle qui veut dire jeune kosovar, qui dans leur rap évoque la situation en Kosovo. Il y avait aussi Bessim et Jamal, qui se fait appeler Johnny dans son nom d'artiste, qui eux aussi chantaient des morceaux qui oscillaient entre le funk et le rap. Et malheureusement, leur initiative tellement positive s'est avérée peu rentable. Il y avait peu de monde et j'ai été frappée parce que les jeunes présents à cette soirée, essentiellement des jeunes Albanais, étaient un petit peu découragés, entre autres les musiciens, disant mais on n'aurait pas dû mettre sur l'affiche concert pour la Kosovo. C'est pour ça que les gens ne sont pas venus. Eh bien, il faut avouer que c'est assez écœurant d'entendre ça. Triste qu'ils aient cette sensation que parce qu'on consacre un concert à les soutenir et à essayer que les choses se passent bien entre les jeunes kosovars et les jeunes suisses ou les jeunes genevois et aux Savoyards, eh bien, les gens ne viennent pas. D'autant plus que lorsqu'on apprend ce qui se passe ces derniers temps au niveau de notre gouvernement et que nous avons envie une fois de plus de taper sur le poing et de dire que décidément nos autorités suisses sont vraiment plus bas que terre et d'un mépris, tout ce qu'il y a de plus évident pour les gens qui sur cette planète souffrent. Quand on entend M. Arnold de Koller oser reprocher au commissariat aux réfugiés sa passivité, alors que lui effectivement il n'est pas passif dans le cas de la Kosovo, puisqu'il renvoie chaque jour 10 à 12 personnes dans un avion dont les places sont réservées expressément pour les requérants d'asile déboutés kosovars renvoyés chez eux, dans un accord signé avec Milosevic, ce tortionnaire et ce responsable de crimes contre l'humanité. Eh bien, M. Koller ferait mieux d'un petit peu contrôler son vocabulaire et surtout de commencer à regarder ce qu'il fait. Mme Ruth Dreyfus, qui elle veut nous faire croire qu'on peut très bien être conseillère fédérale et se préoccuper de ce que pensent les citoyens et citoyennes, on se demande si elle a les oreilles bouchées, puisqu'en ce moment, partout s'élèvent des voix contre l'attitude du Conseil fédéral qui continue à renvoyer les requérants d'asile kosovars, alors que la situation est gravissime dans ce pays. Où des gens fuient par milliers, où des bombardements se font contre les villages et on refuse l'accès à toute la zone ouest de la Kosovo, que ce soit aux journalistes, aux organisations humanitaires, et on fait semblant d'emmener une équipe d'autorités de divers pays le week-end où on a décidé qu'on lèverait le pied du côté des règlements de compte avec les soi-disant terroristes kosovars. C'est une chose inadmissible. Tout citoyen et citoyenne doit élever sa voix aujourd'hui contre cela et ne pas attendre comme M. Koller de voir ce que les pays voisins vont faire pour se mettre à décider nous-mêmes à faire quelque chose. Et cela dit, il y a déjà d'autres pays qui ont décidé de faire. On apprenait encore ce matin que l'Autriche et de nouveaux lenders allemands avaient décidé de sursoir au renvoi des requérants d'asile kosovars. Il est temps que la Suisse fasse de même au risque de répéter, enfin au risque, répétant déjà ce qu'elle a fait il y a 50 ans, alors qu'on ne cesse de battre notre coulpe, mais d'essayer de faire oublier ce qu'on a fait à coups de millions, comme si ça changeait le problème. Alors voilà, si jamais vous avez vous envie de soutenir l'aménagement de cette salle pour les jeunes kosovars à l'Université populaire albanaise, si vous n'avez pas pu aller à ce concert organisé par les jeunes, des jeunes qui voulaient favoriser les rencontres entre les jeunes kosovars et les jeunes genevois et les jeunes savoyards voisins, eh bien vous pouvez toujours vous adresser, bien évidemment, c'est tout simple, à l'Université populaire albanaise, rue des Charmies, 1201, je crois, Genève. Ou bien vous les appelez et puis vous leur proposez un soutien. Je crois qu'il n'y a pas besoin de choses très formelles pour se décider à s'engager, à participer à l'accueil de ces gens dans notre pays et en particulier des jeunes. Elisabeth Caumont dans Remue Ménage, Onde Femme, Radio Zone 93.8.
Cruel, oh.
Si Elisabeth Caumont escroque le rock, Catherine Lara croque la roqueuse.
Je dors avec, j'en rêve la nuit. Ils sont ma maîtresse jolie. Quand je les vois sous toutes leurs facettes, taillées en rose ou en navette, j'ai comme un frisson dans le dos. C'est mon point faible, c'est mon credo.
Remue-ménage, c'est terminé pour aujourd'hui. Dans quelques instants, la pleine lune dans vos oreilles. Nous nous retrouvons la semaine prochaine.